ce que j'ai fait en préambule de dépôt de la pétition, je voulais juste rétablir les faits parce qu'on s'est aperçu par les appels qu'on recevait à l'Hôtel de Ville, puis même par des appels provenaient de gens qui avaient signé, que beaucoup avaient signé la pétition, d'autres non, des citoyens. Puis ils s'informaient sur un peu ce que c'était, quel est le projet, ils demandaient qu'on explique le projet. Un coup qu'on l'a eu expliqué, les commentaires étaient généralement positifs. Ce que j'ai fait en préambule, il y avait eu beaucoup d'informations qui n'étaient pas validées, là, qui avaient un peu couru à travers les médias sociaux. On parlait que ce terrain-là avait été initialement été le site d'une signature d'un traité de paix entre les gens de Saint-Sauveur et les Autochtones. Ça, j'ai vérifié ça auprès de deux historiens, puis ils ont démenti ça complètement. Il n'y a jamais eu de signature, il n'y a jamais eu de tribu autochtone à Saint-Sauveur. Donc, ça, on éliminait ça. Ça, je l'ai mentionné, puis c'est plusieurs, là, on parle entre autres, M. Allard, c'est un historien là, mondialement connu, là, c'est lui qui a écrit le livre « Le cœur des Laurentides ». Lui, il m'a mentionné qu'il n'avait pas eu d'Autochtones ici. J'ai parlé aussi du côté environnemental, qu'on éliminait, que le promoteur avait consenti à éliminer les 45 bacs, là, les 15 bacs noirs, bruns, verts, là, les différentes levées, pour trois conteneurs chemin fouillés, là, qui était pour avoir pour effet de bon moins de camions de déchets, moins de bruit, moins d'émissions de gaz, un impact visuel vraiment amélioré. Les arbres coupés, on parlait de coupe à blanc. Il y a eu un total de 20 arbres qui ont été coupés. Puis là-dessus, il y avait 50% de conifères, 50% de feuillus. Puis on sait que pour l'aération, la photosynthèse, les conifères, c'est pas les arbres les mieux là-dedans. Fait que ça va être remplacé par 15 arbres, minimum de 15 arbres matures, feuillus. Puis ça, c'est à notre demande. Puis le contracteur a accepté. On dit que la population n'avait pas été consultée. Elle avait été consultée lors d'une étude de dérogation mineure. Ça avait été la dérogation mineure. Je pense que M. Beaulieu vous l'avait expliqué en nombre. La dérogation mineure, ça avait été pour l'ajout de deux entrées supplémentaires sur la rue Fillon. Ces entrées supplémentaires-là ont pour effet de réduire la surface d'asphalte et de remplacer par de la verdure. Donc, c'est encore pour on est sensible à l'environnement, puis on voulait poser des actes là, qui le démontrent bien. On parlait beaucoup du style proposé, du style de propriété proposé par le promoteur. Ça s'intégrait. En fait, si on regarde le plan d'urbanisme, ça respectait tout ce projet-là, finalement, respectait les critères d'urbanisme. Et les décisions prises autant par le CCU que par les gens des élus, c'était selon les critères exigés par le PIA d'un. C'est faut pas baser les décisions sur les goûts personnels de tous et chacun. Donc, nous autres, en autant que ça respecte, ça s'amalgame à l'ensemble des maisons bâties à Saint-Sauveur, nous autres, c'est satisfaisant pour nous.
Quelques questions par rapport à ça. Bon, vous parlez qu'il y a des gens qui appelaient à l'Hôtel de Ville, donc ça veut dire que les gens n'étaient pas tout à fait au courant du projet. Pourquoi, comme d'autres projets immobiliers où il y a eu des consultations, où le promoteur est venu montrer des images, il y a eu une espèce de collaboration, ouais. Pourquoi ça ne s'est pas fait dans ce cas-là?
C'est parce que ce projet-là, il n'y avait pas besoin d'autorisation de la ville. Ce projet-là était conforme au plan d'urbanisme. S'il n'y avait pas eu la demande pour la dérogation mineure, la population n'aurait pas été consultée. Là, elle a été consultée par la dérogation mineure. Il y a eu des avis publics qui ont passé dans les journaux, sur notre site Internet, et ça a passé au mois de mai, ça. Donc, les gens avaient l'opportunité de se mettre au courant puis d'assister au mois de mai à la séance du conseil pour poser des questions, ce qui n'a pas été fait. Le promoteur n'avait pas à consulter la population. Il n'y avait pas d'assemblée de consultation qui était prévue parce que, en tout point, ce projet-là était conforme au plan d'urbanisme.
Mais vous, c'est pas dans une vision, peut-être, ou peut-être la question pourrait être posée autrement, c'est-à-dire, c'est quoi votre vision de Saint-Sauveur au niveau du développement résidentiel, de la façon aussi de faire les choses?
Là, on parle d'autre chose. Là, on parle de l'ensemble du plan d'urbanisme. Est-ce que le plan d'urbanisme doit être revu? Est-ce que tout développement doit passer par un PIA? Peut-être que ça sera regardé. Écoutez, là, à date, ça ne l'est pas. S'il est conforme, ça ne l'est pas. Peut-être qu'on devrait l'exiger. C'est sûr qu'un exercice comme ça, comme on a fait hier, ça nous fait réfléchir. Tu sais, ça nous fait peut-être voir est-ce qu'il y a d'autres façons de faire de faire le développement de Saint-Sauveur. Là, il y a des PIA dans certaines zones et il y a un plan d'urbanisme qui est fait. Dans le cas du projet, ça fait 20-25 ans, ce terrain-là est à vendre, puis il y a eu d'autres projets similaires à celui qui a été présenté par le promoteur, qui ont déjà été refusés dans le passé parce que les maisons, les propriétés qui ont été déposées étaient pas, s'amalgamaient pas avec les propriétés de Saint-Sauveur. Celui d'hier, celui qu'on a discuté hier, oui, il s'amalgamait un petit peu plus avec les propriétés. Non pas les propriétés voisines, mais pas tellement loin, dans le secteur puis dans différentes places à Saint-Sauveur. Est-ce que les citoyens, dans un avenir, devraient être consultés pour tout développement? Ça alourdit la machine, là, comme on dit, mais il n'est pas dit qu'on leur écrit. Ça ne sera pas des réflexions qu'on se fera en interne ici pour voir s'il y a une façon différente de faire les choses, peut-être.
Oui, parce que ça semble être sensible, les gens. Sont attachés évidemment au village, au cœur de la ville, au cachet, puis on peut pas être contre ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont sentis peut-être mis à part, qui sentent qu'il y a quelque chose qui s'en va avec ces maisons-là qui prennent la place. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez aussi entendu hier?
Bien, oui, on l'a entendu. On a entendu, mais c'était tout à fait conforme. Je pense que les gens, d'autres messages que j'ai entendus hier, pourquoi la ville n'a pas acheté ce terrain-là quand ils n'ont pas fait un parc? C'est très localisé, hein, puis c'est très fermé comme parc. Acheter un terrain de 2 millions de dollars pour en faire un parc pour 25-30 maisons, c'est cher. Là. Tu sais, est-ce que les gens auraient été prêts à payer pour un tel investissement? On n'a pas fait l'exercice, là, puis c'était pas dans notre programme là, d'acheter des terrains pour en faire des parcs. On a des parcs, on a quelques-uns. Est-ce que les citoyens auraient pu se mobiliser pour acheter ce terrain-là, pour en faire une espèce de parc interne? Peut-être qu'ils auraient pu le faire aussi. Ça fait longtemps qu'il est à vendre. Il n'y a jamais eu de demande qui a été fait auprès de la municipalité de la ville dans ce sens-là, dire pourquoi la ville ne l'achète pas pour en faire un parc. Ça n'a jamais été fait dans le passé. Là. Sauf hier, c'est la première fois que les citoyens se manifestaient pour dire que j'aurais dû l'acheter. Mais il y a eu un promoteur qui a décidé de l'acheter puis en faire ce que les plans respectent, les plans d'urbanisme le permet depuis des années. Là. Un projet de maison, il va avoir 15 propriétés, 7 en semi-détaché et un tout seul, là, un autonome. Donc, il va avoir 15 propriétés.
Est-ce qu'il y a une ouverture, M. Garipi, de rencontrer les citoyens qui dénonçaient le projet, peut-être pour justement faire évoluer les choses? Est-ce que il y a une ouverture même à faire évoluer ce projet-là aussi?
Bien, ce projet-là, il est fait. Le promoteur, il y a déjà des ventes de fait. Là, donc, c'est un peu tard pour ce qui est de ce projet-là. on peut pas légalement, on peut pas arrêter le projet. Si on arrête le projet, c'est évident que le promoteur va intenter des poursuites contre la ville.
Donc, ce sera peut-être pour les futurs projets, peut-être se pencher justement. Vous parliez tantôt que ça fait, bon, clairement réfléchir le conseil municipal. Je pense que ça, les citoyens vont être contents. Vous parliez tantôt des avis publics. On a parlé de cette dérogation dans le cadre des conseils municipaux précédents. Pourquoi le conseil municipal de Saint-Sauveur n'est pas encore web diffusé, un peu comme ça se fait autour, notamment dans Rivière-du-Nord, à Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Prévost, Saint-Hippolyte? Est-ce que vous allez emboîter le pas bientôt?
Ça, on a discuté à plusieurs reprises et puis on a décidé de ne pas que nos assemblées de conseil ne soient pas filmées, non pas que on ne veut pas être transparent. C'est un peu notre marque de commerce d'être transparent pour avoir un dialogue avec la population. La preuve, c'est qu'il y a du monde à nos assemblées de conseil. On a des déjeuners du maire plusieurs durant l'année où on accueille les citoyens pour qu'ils nous donnent des comptes rendus, puis des idées puis, sur la façon qu'ils voient leur village et leur ville. Puis souvent, ces idées-là vont de l'avant. On les regarde en commission, puis ils vont de l'avant. Le fait de filmer une assemblée de conseil, ça avancerait toutes les choses. Il y en a, puis j'en connais dans d'autres municipalités, puis dans d'autres villes que je n'aimerais pas, mais il y en a qui cherchent des tribunes pour passer des messages, puis ils servent des assemblées de conseil où c'est filmé pour passer des messages. Donc, c'est peut-être pas là où on va aller. Je pense qu'il y a des belles discussions qui sont faites à l'intérieur du caucus, puis aux assemblées de conseil, même s'ils ne sont pas, télédiffusés. Puis je pense que l'ouverture, c'est on démontre pas de non-transparence parce qu'ils ne sont pas télédiffusés non plus.
Mais tu sais, on parle de télédiffusion, certaines municipalités, c'est uniquement sur les réseaux sociaux, par exemple, sur leur page Facebook. Donc, de ce qu'on nous a dit à peu de frais, là, puis on voit les commentaires sont assez intéressants. Les gens commentent et tout ça, mais c'est pas là où Saint-Sauveur veut aller de ce que je comprends. Là.
Pas à court terme, en tout cas. Pas à court terme. Puis c'est pas tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux. Si on dit on va sur les réseaux sociaux, on limite l'information supplémentaire à un certain nombre de certains segments de la population qui est pas toute la population de Saint-Sauveur. Beaucoup de la population de Saint-Sauveur, puis on n'a pas besoin de faire l'analyse très longtemps. Là. Les statistiques le disent toutes. Le moyen d'âge de la population de Saint-Sauveur est vieillissante. Et tout ce segment-là qui est sur Facebook, je ne crois pas. Puis ces gens-là ont l'opportunité de consulter soit les journaux, puis c'est pour ça que on met nos avis publics, je le répète, c'est pour ça qu'on met nos... On a le choix, on pourrait ne pas aller dans les journaux pour exposer nos avis publics, mais on le fait parce qu'on connaît notre population, puis on le fait dans les journaux publics, dans les journaux, et on le fait aussi, on est sur notre site Internet, le site de la ville. Donc, il y a beaucoup de place pour les citoyens pour consulter les différents projets. Puis, je l'ai mentionné hier. Nous, on a des responsabilités d'être transparents envers la population, mais la population a également une responsabilité de s'informer de ce qui se passe dans leur village. Puis ça, il y a beaucoup de places où ils peuvent suivre l'évolution du village. Ce projet-là, bien, il l'a revu sur notre site Internet. Puis ça fait 3 mois depuis le mois de... Je pense que les avis publics ont paru au mois d'avril ou à fin d'avril ou début de mai. Donc, ça fait plusieurs mois, là, puis ça fait juste 2 semaines là, qu'on est au courant qu'il va y avoir une cinquantaine de personnes là, de ce secteur-là qui étaient pour s'opposer à ce projet-là. Mais le projet, non pas... J'allais dire, il est accepté. On n'avait pas à l'accepter. Il était accepté comme tel.
Oui.
Il était conforme aux différents critères.
Toutefois, si je ne me trompe pas, les résidents de soit Desjardins ou Filion, je ne me souviens plus, là, ont reçu ça à quelques jours d'avis, là, leur changement d'adresse et tout ça. eux n'avaient pas été mis au courant là, que leur adresse allait changer.
Bien, il y avait trois personnes, trois propriétés qui ont changé d'adresse. Ça s'est fait, ils ont été rencontrés. Moi, j'en ai rencontré même un couple qui est venu me rencontrer. Je les ai invités à l'hôtel de ville. On a échangé là-dessus. Puis finalement, ils étaient satisfaits des explications. Ça aurait pu être fait autrement. Peut-être que ça aurait pu être fait autrement, mais écoutez, ça s'est fait. Ça s'est quand même fait d'une façon humaine et responsable de notre part.
Monsieur Gariepy, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer la position du conseil, puis vous, comme maire de Saint-Sauveur. Merci beaucoup.
OK, bienvenue.